Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mardi. Écoutez, je suis absolument découragée. Vous savez que Marie-Pierre Morin était donc à Tout le monde en parle dimanche. Elle a fait son mea culpa, elle a dit qu'elle avait suivi, qu'elle continuait à être suivie par un psy, qu'elle avait fait une cure fermée de 3 semaines. Elle s'excuse, elle dit qu'elle va s'excuser en personne aux gens qu'elle a blessés ou agressés ou harcelés. Et je lis aujourd'hui des témoignages, en fait, ça fait 24 heures que je lis des témoignages, des gens qui disent « Ouais, mais on n'est pas sûr qu'elle est vraiment sincère. Puis, c'est quoi cette affaire-là qui est habillée en blanc? Elle veut nous faire croire qu'elle est pure? C'est juste une opération de relations publiques, cette affaire-là. Moi, je la crois pas, puis de toute façon, c'est trop tôt. Hey, on peut-tu, s'il vous plaît, juste s'incliner devant le courage que ça a pris à cette fille-là d'aller devant des centaines de milliers de gens et de dire « Je suis alcoolique, j'ai un problème, je me soigne, je me mets à genoux, je m'incline devant vous, je vous demande pardon. » Quand est-ce que ça va être assez? Combien de mois va falloir qu'elle soit en purgatoire? Je trouve que cette histoire-là est en train de prendre des proportions complètement délirantes. Quand j'ai vu les témoignages des gens qui trouvent que c'est pas encore assez le mea culpa de Marie-Pierre Morin, j'ai poussé un grand « ben voyons donc ».
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la manifestation contre les mesures sanitaires de samedi? Qu'est-ce que vous avez pensé du fait que la police n'ait soumis que 28 contraventions alors qu'il y avait, selon certaines estimations, 30 000 personnes? Qu'est-ce que vous avez pensé de la présence de Maxime Bernier qui affirmait être là pour défendre la liberté? Bref, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Moi, ce sont des questions que j'ai envie de poser à mon ami et collègue Joseph Facal, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie. Qu'est-ce que j'en ai pensé?
Oui, moi je suis découragée. Il faut que tu me sortes de ma déprime, de mon angoisse, de ma dépression profonde, parce que écoute, quand j'ai vu ces images-là samedi, j'avais juste envie de pleurer.
Écoute, oui, pendant les trois premiers mois de la crise, disons au printemps de l'an dernier, on pouvait jusqu'à un certain point, comprendre que les gens aient des doutes, des questions, soient pas trop sûrs. Moi, je rigolais beaucoup l'an dernier en recevant, par exemple, des courriels de crackpots qui me disaient « Allez voir les hôpitaux, ils sont vides, c'est pas vrai que ça déborde. » Mais là, voir encore ces mêmes choses-là après 15 mois, c'est comme si, Sophie, nous étions pendant une guerre, que nous étions bombardés et que les gens disaient « Non, non, c'est des fausses bombes. » Je m'excuse, mais ce qui se passe en Inde, quoi?
Ben oui.
Imaginaire, tous ces gens, par exemple, qui disent « J'étais un sceptique, je l'ai attrapé, je suis gravement malade, j'en suis pas encore revenu, c'était vrai, faites attention. » Ces gens-là, quoi, ça aussi, c'est organisé avec le gars des vues. En fait, ces gens qui ont manifesté disent vouloir le retour à la normale, mais ils font tout pour nous éloigner du retour à la normale. Et là, évidemment, si tu me demandes de l'expliquer, ben là, écoute, c'est une combinaison de conspirationnisme, d'irresponsabilité, d'égoïsme. Mais je vais te dire une chose, Sophie. Écoute-moi bien. Ça fait maintenant 15 mois, peut-être un peu moins, que des gens peut-être plus sages et plus sereins que moi disent « Non, non, il faut pas les insulter, il faut pas les braquer, il faut pas les confronter, il faut tenter de les raisonner. » Non, non et non. Ils sont au-delà de la raison. Il y a des gens là-dedans qui ont perdu tout sens des responsabilités, ont perdu toute notion de solidarité, et ils l'ont perdu à tel point qu'en fait, c'est parce qu'ils n'ont probablement jamais eu.
Oui, parce que je pense par exemple à Maxime Bernier, donc le chef du Parti populaire du Canada, qui était présent sur place, qui avait encouragé tout le monde, qui a fait des petites vidéos en disant « on est là pour la liberté ». Et j'ai fait une entrevue avec Maxime Bernier sur les ondes de Cube Radio où je lui disais qu'il était irresponsable parce que lui dit « moi je suis pas contre le vaccin, je suis pour que les gens se fassent librement vacciner s'ils veulent, moi je me ferais pas vacciner ». Parce que j'ai 58 ans, que je suis en pleine forme. Mais j'aimerais que Maxime Bernier nous explique ce qu'il pense du cas de Benoît Pelletier, donc ancien ministre libéral, qui vient de passer au début de l'année 2 mois dans le coma parce qu'il a contracté la COVID et qui était pourtant quelqu'un en très, 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 très bonne santé. Il faisait des expéditions, il faisait de la course, il faisait de... Bon... Alors, j'aimerais ça que Maxime Bernier, au lieu de dire à ses troupes « Ah, c'est pas grave, moi, j'ai pas besoin de me faire vacciner parce que je suis en pleine forme », qu'est-ce qu'il envoie comme message aux gens? Que si t'es en pleine santé, t'as pas besoin de te faire vacciner, c'est dangereux comme message.
Oui, absolument. Il faut comprendre, évidemment, que Maxime Bernier a une clientèle politique qui est probablement à l'intérieur de la marge d'erreur des sondages, 2-3%. Et donc, évidemment, il joue pour son public de conspirationnistes fêlés. En fait, Maxime Bernier, c'est notre micro-version locale, mais de la même attitude que fut celle de Donald Trump pendant plus d'un an, à une échelle évidemment beaucoup plus vaste. Regarde même en Inde, où le premier ministre Narendra Modi, pour des raisons électorales, fait des meetings électoraux en plein air avec des milliers de personnes. Tu sais, ils sont 1,4 milliards en Inde. Hein? Ils sont pas 8,1 millions comme nous, là, tu vois. Alors, c'est, Maxime, si tu veux, notre version locale d'une récupération politique abjecte. Évidemment, qui capitalise ensuite sur le manque de jugement, sur le fait que certaines personnes se croient invincible, sur le fait que certaines personnes s'imaginent que soit un dieu veille sur eux, soit Dieu décidera lui quand leur dernière heure sera arrivée. Alors finalement, tu as des gens qui trouvent un peu leur profit politique là-dedans. Moi, ce qui me sidère, c'est l'incohérence. Parce que finalement, ce sont des gens, si tu veux, ce sont des gens qui me font penser à... Imagine que nous sommes tous dans un canot de sauvetage, un canot pneumatique, et ils donnent des coups de canif dans notre propre canot, tu vois, alors qu'on essaie de s'éloigner. Et ils font ça au moment où la vaccination progresse.
La
vaccination massive est notre meilleur espoir pour, comme disait ton chum, s'asseoir à une terrasse cet été, puis siroter une bière en regardant passer le monde, comme dans le bon vieux temps. Ils font tout pour qu'on s'éloigne de ça.
C'est absolument décourageant et moi, ce que j'ai trouvé le plus dur en fin de semaine, c'est de voir donc des images de cette manifestation-là, qui, je tiens à le rappeler, évidemment, tout à fait légitime. Les gens ont le droit de manifester. Par contre, t'as pas le droit de manifester sans masque, sans maintenir le 2 mètres, en faisant des câlins les uns aux autres. On les a vus, des images de ces gens-là entassés dans le métro sans porter le masque, alors que le masque est obligatoire dans le métro, les autobus, la même chose, c'est ça qui est inquiétant. Mais donc, ce qui m'a fait de la peine en fin de semaine, c'est de voir la même journée, cette manifestation-là des cervelés et l'histoire absolument sordide de cette dame, cette chanteuse country de 70 ans qui est décédée parce qu'elle a refusé le vaccin et sur son lit de mort, elle se dit « ben, j'aurais donc bien dû ». J'aurais donc bien dû, mais pourquoi ce « j'aurais donc bien dû prendre le vaccin » n'a pas retenti plus fort? Ça me tue cette histoire-là.
Écoute Sophie, je ne veux pas, rassure-toi, infliger à nos auteurs, à nos auditeurs, un grand cours d'histoire de la sociologie. Mais tu sais, ce qu'on vit en ce moment, c'est la manifestation la plus récente de quelque chose qui a été diagnostiqué il y a longtemps, longtemps, longtemps. Un des fondateurs de la sociologie, ma discipline d'origine, un Français qui s'appelait Émile Durkheim, en 1893, dans un classique qui s'appelait « La division du travail social », a exposé le concept de anomie. Et l'anomie, rien à voir avec l'anémie médicale, l'anomie, c'est quand dans une société, les valeurs communes se perdent et quand les institutions n'arrivent plus à générer une légitimité qui fait qu'on est capable d'y croire et de les suivre. Autrement dit, quand les gens disent « Les médias, c'est toutes des fake news, le gouvernement, c'est toutes des menteurs », ça, là, Durkheim l'avait vu venir à la fin du 19e siècle.
Incroyable.
Et si, en 1893, Durkheim déplorait déjà le chacun pour soi et l'absence de solidarité, imagine-toi cela en fast-forward, en 2021, avec les réseaux sociaux et les bulles dans lesquelles les gens s'enferment, ne s'abreuvant que de théories conspirationnistes qui viennent déjà les conforter. Autrement dit, ce qu'on vit en ce moment, ça monte, 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 monte depuis plus d'un siècle, et c'est les dérèglements de la modernité à propos desquels des pages classiques que je ne nous infligerai pas ont été écrites.
Oui, mais ben merci de faire notre éducation et j'apprends au passage que ta formation de base était une formation en sociologie, ce que je ne savais pas. Mais je trouve ça très important de parler de l'Inde, pas parce que on peut se comparer en termes évidemment de population, tu l'as dit, plusieurs milliards, nous on est simplement 8 millions, mais en termes de leçons qu'on devrait retenir de l'Inde, parce que ils ont déconfiné, ils ont pris des libertés, ils pensaient que ça allait bien. Et en plus, c'est un pays qui produit des vaccins.
Exactement.
Mais c'est quand même quelle ironie du sort, quel paradoxe de voir ce pays producteur de vaccins qui en plus nous a fourni des vaccins à nous au Canada et qui, parce que sa population n'était pas suffisamment vaccinée, se retrouve avec une apocalypse à briser le cœur. Mais ce qu'il faut retenir quand on regarde l'Inde, ce qu'il faut retenir, c'est ne déconfinons pas trop vite, n'ouvrons pas les portes trop vite, ne faisons pas de rassemblements de milliers de gens, ne faisons pas de rassemblements religieux de milliers de gens.
Rappelle-toi, il y a quelques mois, effectivement, beaucoup d'experts des questions sanitaires, ce que je ne suis pas, s'étonnaient du relatif succès de l'Inde en disant « Wow, un pays aussi peuplé, avec des infrastructures sanitaires aussi inégales, réussit pas si mal finalement ». Et là, évidemment, ils ont déconfiné trop vite avec les résultats que tu sais. Et ils ont déconfiné. Et au fond, si tu veux, j'ai comme l'impression que l'Inde a eu une tempête parfaite. C'est-à-dire une série de campagnes électorales dans plusieurs États. Avec évidemment donc des grands rassemblements en plein air, ce que Anthony Fauci appelait des super spreaders aux États-Unis.
Oui, là, tu vois, absolument.
Quand 40 000 personnes se réunissent sans masque à 6 pouces l'une de l'autre, combiné avec, dans le cas de l'Inde, pour dire les choses respectueusement, une vie religieuse particulièrement intense qui fait croire à beaucoup de gens qu'ils ne contrôlent pas leur propre destin. Qu'il y a au-dessus d'eux quelqu'un qui va décider. Alors ça, évidemment, religiosité intense, ferveur religieuse, plus campagne électorale et rassemblement en plein air, c'était évidemment la tempête parfaite. Et effectivement, comment des gens ici peuvent voir ces charniers où on brûle des corps directement dans le stationnement de l'hôpital et persister à dire que c'est pas vrai tout ça?
Ouais. Et aussi, c'est ce qui est assez particulier. Moi, je me pogne depuis plusieurs jours maintenant. Je me pogne sur les médias sociaux avec Maxime Bernier. Toi, je sais que tu n'es plus sur les médias sociaux, tu ne peux pas assister à ça. C'est assez rigolo. Et il me cite les cas des États américains qui ont choisi de déconfiner. On sait que la Floride, écoute, il n'y a plus aucune mesure. Là, c'est le retour parfaitement à la normale. En Floride, mais ce que Maxime Bernier ne comprend pas, c'est que oui, il y a certains États qui peuvent se permettre ça. Pourquoi? Parce que leur campagne de vaccination est absolument exemplaire et qu'ils ont atteint pas encore l'immunité collective, mais quand t'as des taux de vaccination de 45 ou de 50 ou de 55%, tu peux te permettre de lâcher du lousse, entre guillemets. Mais au Canada, puis au Québec, on n'est pas encore rendu là. Donc,
Sophie, je ne souhaite évidemment du mal à personne. Je ne veux pas être compris de travers. Je ne souhaite pas du mal à personne. Je serais juste curieux que quelqu'un demande à M. Bernier, et vous diriez quoi si jamais vous l'attrapiez?
Mm-hmm. Je lui ai posé la question, et lui, il me dit, de toute façon, si je l'attrape, j'ai 0,0005% d'en mourir. Donc, lui, il dit, c'est pas grave si je l'attrape, parce que j'ai peu de chances d'en mourir. Puis là, je lui ai répondu, écoute, tu iras écouter notre entrevue, c'était assez particulier. Et là, je lui ai dit, mais Monsieur Bernier, vous êtes en train de nous dire que vous, ça vous dérange pas d'aller engorger le système de santé publique au Canada parce que ça vous tente pas de vous faire vacciner. Je veux dire, parce que vous pensez que les conséquences seront pas graves. Mais de toute façon, c'est complètement ridicule comme argument parce que regarde Benoît Pelletier, je reviens encore à son témoignage absolument qui donne froid dans le dos. Il a frôlé la mort à deux reprises. Sa famille a été convoquée à son chevet. Ouais. Parce que les médecins étaient convaincus c'était l'extrême onction. Là, on s'en allait. Il vivait ses dernières heures, ses dernières minutes.
Et ce qui est le plus cruellement ironique, c'est que tous ces gens qui n'ont à la bouche que la liberté individuelle voient tout à travers le prisme de leurs droits. J'ai le droit à ceci, j'ai le droit à cela. Eh bien, je te garantis que s'il tombait malade, il jouerait du coude au nom du « maintenant, j'ai le droit d'être soigné ». Autrement dit, j'ai le droit d'être irresponsable, mais je veux ensuite passer devant la file et être parmi les premiers à être soigné, sans la moindre considération pour ces travailleurs de la santé exposés au quotidien qui disent « de grâce, pouvons-nous avoir un peu de répit ?» Non, écoute, tu sais, pour des gens comme moi, là, moi, je suis un de ces naïfs qui, pendant des décennies, a cru que l'éducation nous ferait faire lentement des progrès collectifs et que les superstitions se réduiraient et que, voyons donc, le niveau d'éducation n'a jamais été aussi élevé et le niveau de stupidité également, car l'éducation ne donne pas le jugement.
Mais tu vois, donc on peut se désoler. Moi, je me désolais beaucoup samedi. J'ai vraiment eu un gros coup de déprime. Et en même temps, il faut se dire que ce ne sont que 30 000 personnes sur une population de 8 millions, que les sondages le disent, 80% des gens soit ont déjà été vaccinés, soit veulent se faire vacciner. Oui. Et ce qui me rassure aussi, c'est de voir les chiffres quand le gouvernement a ouvert les vannes, vraiment, pour la vaccination pour tous, enfin pour tous les personnes majeures. Regarde la réaction des centaines de milliers de gens qui ont pris leur rendez-vous. On annonce aujourd'hui donc cette ère de vaccination à l'auto. Tu vas être dans ton auto, tu vas te faire vacciner, on va pouvoir vacciner 4000 personnes par jour. Je préfère regarder de ce côté-là, du côté des gens optimistes et des gens solidaires, que de regarder vers les gens sectaires. Écoute, merci beaucoup, Joseph. Il y a plein d'autres sujets dont on aurait voulu parler, mais c'était tellement passionnant de parler de ça. On se reprendra à notre prochaine conversation jeudi. Merci, Joseph.
Avec plaisir, au revoir.
Joseph Facal, chroniqueur blogueur pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Si la laïcité vous intéresse, si la politique québécoise vous intéresse, je vous encourage vraiment fortement à suivre sur Facebook les différentes entrées de Frédéric Bastien, qu'on connaît bien, professeur, historien, ex-candidat à la chefferie du PQ, parce que régulièrement sur sa page Facebook, ben d'abord c'est Monsieur Scoop, hein, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'il attire notre attention sur des informations qui étaient vraiment passées sous le radar. Et dans ce cas-ci, au cours des dernières heures, des derniers jours, ben il a attiré mon attention, en tout cas, sur quelque chose qui pour moi était passé sous le radar. C'est le fait que Québec solidaire aurait écarté des candidates voilées dans la circonscription de Mercier. Ça remonte aux élections de 2018. Il est au bout de la ligne, Frédéric Bastien. Bonjour.
Oui, bonjour, Madame Durocher.
Très important de vous suivre sur Facebook, Monsieur Bastien, parce que parfois, comme journaliste, il y a des choses qui nous échappent, mais vous avez un œil de lynx, donc vous avez vu passer ça, cette information, en tout cas une information de quelqu'un qui est membre de Québec solidaire, qui lance cette affirmation. De quoi s'agit-il exactement dans l'attitude de Québec solidaire face aux femmes voilées?
Oui, alors, ce dont il est question, c'est qu'en 2000, d'abord, c'est le témoignage d'une militante de longue date de Québec solidaire, une dame elle-même musulmane qui s'appelle Cybèle Epi Atagoul, si je prononce bien son nom. Et donc, Mme Atagoul dit qu'en 2018, il y avait plusieurs au sein de Québec solidaire qui voulaient qu'il y ait une candidate voilée qui se présente dans le comté de Mercier, là, qui englobe le plateau Mont-Royal, donc un comté central. Il y avait le député Amir Kadir qui avait annoncé sa retraite et donc il fallait quelqu'un pour le remplacer. Alors, évidemment, Québec solidaire voulait garder le comté et donc c'est un bon comté pour QS, hein, et évidemment il fallait le garder. Et ce que dit Mme Atagoul, c'est qu'on a écarté des aspirantes candidates, là, aspirantes à porter les couleurs de Québec solidaire dans cette circonscription, parce qu'elles étaient voilées. Parce qu'elles étaient voilées, dis-je bien. Et moi, j'ai tendance à croire cette histoire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi-même, j'ambitionnais de me présenter pour le Parti québécois dans le comté de Mercier en 2018. Alors, j'étais très à l'affût de ce qui se passait. Et bon, finalement, ça ne s'est pas produit, mais là, c'est pas ça qui est intéressant dans l'histoire aujourd'hui. Et j'ai entendu cette rumeur. On l'entendait. Oui, alors il y avait Québec solidaire s'en venait avec une candidature voilée. Et là, nous, on se disait, ben c'est excellent pour nous. Parce qu'évidemment, ils vont perdre des votes avec ça. Parce que le voile est un symbole que rejette une grande majorité de Québécois, parce que c'est un symbole sexiste, un symbole qui est lié à la révolution iranienne de Khomeini, ou qui est lié au salafisme en Arabie Saoudite. Alors, disons, les versions extrémistes rigoristes de l'islam. Et c'est un symbole qui ne passe pas, et avec raison. Et donc, on se disait, ils vont-tu faire cette erreur-là? Alors, ils ont fait les mêmes calculs que nous, visiblement, et ils ont écarté les aspirantes candidats, et les ont envoyés dans des comtés. Il y a eu des candidatures voilées, Eve Torres en était une.
Oui, tout à fait.
Un comté est complètement perdu, là. Ville-Mont-Royal, là, je veux dire, c'est pas là que vous
avez... Oui, Ville-Mont-Royal-Outremont, en fait, qui est le vrai nom de ce comté-là. Il n'y a pas grand monde qui aurait voté Québec solidaire, peu importe ce que le candidat aurait sur la tête, que ce soit une passoire, ou je veux dire, c'est libéral. libéral, Outremont.
On pourrait avoir un punk avec les cheveux roses.
Voilà.
Là, il serait élu dans Outremont, Mont-Royal. Qui était pour le Parti libéral.
Voilà. Mais ce que ça nous dit, Monsieur Bastien, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que Québec solidaire se présente comme le champion du progressisme. Hein? Il se présente comme le parti féministe, le parti qui défend le multiculturalisme, qui s'oppose à l'islamophobie, qui traite d'islamophobes les gens qui sont pour la loi 21, les gens qui critiquent le moindrement l'islam. Or, si ce que Madame Attagoul nous dit est vrai, ça veut dire que au sein même du parti, on a fait de la discrimination en disant oui, vous pouvez être une candidate musulmane, mais pas une candidate musulmane voilée. Donc, en fait, ils sont en train de faire, ils auraient fait exactement ce qu'ils reprochent au gouvernement, qui dit vous ne pouvez pas, quand vous travaillez pour le gouvernement dans certains postes clés, afficher un signe religieux. Donc en fait, la Québec solidaire applique une forme de loi 21 à l'interne.
Oui, non, mais c'est ça le grand paradoxe. C'est pas plus tard qu'il y a deux semaines ou trois semaines, si je me souviens bien, là, au début avril, Manon Massé sur Twitter a dit il faut regarder en face le racisme systémique, c'est la seule façon de se réconcilier. Il faut nettoyer notre passé. Comme si on était à Mobile, Alabama, là, dans le vieux sud ségrégationniste américain, là. Comme si on avait une longue tradition d'oppression des Noirs, d'esclavage, de ségrégation raciale. Alors, ce qui est complètement faux en passant, là, c'est juste faux. Mais alors, on est dans une espèce de fantasmagorie, là. Et donc, évidemment, les gens de Québec solidaire se donnent le beau rôle, eux, ce sont les vaillants et preux combattants de cette bête raciste, n'est-ce pas, qui est omniprésente, omnisciente, oui, etc. Et donc, le racisme systémique, et là, comme ce qu'on voit en ce moment, alors c'est qu'ils se sont eux-mêmes appliqués une forme de loi 21. Alors, en fait, ce qu'ils ont fait, moi, je suis convaincu, il n'y a pas de racisme systémique à Québec solidaire. Il n'y a pas de racisme systémique.
Il y a de l'opportunisme systémique, c'est-à-dire que ils étaient pas prêts. Donc leur progressisme et leur volonté de défendre les droits des femmes voilées s'arrête à la limite, c'est est-ce qu'on va perdre un comté ou pas. Donc c'est un progressisme à géométrie variable.
Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Alors, vous n'êtes pas obligé d'employer ce mot-là, vous, là, mais moi, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est de l'hypocrisie, parce que là, on voit que quand leur intérêt est en cause, quand leur intérêt politique est en cause, évidemment, ils ne voulaient pas perdre le comté de Mercier, c'est sûr. Et là, évidemment, on sait aujourd'hui que ça a été une très bonne élection pour Québec solidaire 2018, mais six mois avant l'élection, au moment où ces tractations-là ont lieu à l'interne, là, parce qu'on était à peu près six mois de l'élection, même un peu plus, c'était pas écrit dans le ciel qu'ils allaient avoir un très bon score, là. Donc la question de garder le comté de Mercier avec Amir Kadir qui s'en allait, c'était une vraie question, là. Alors, évidemment, ils étaient...
C'était leur existence même. Oui. Voilà.
Voilà, c'est ça. Ils étaient préoccupés. C'était une question importante pour eux. Et là, on voit que, dans ce temps-là, alors, tout d'un coup, là, les beaux discours ont fait de la place à tout le monde. Et puis, nous, on est au-dessus de la mêlée. On est vraiment des gens qui défendent des principes généreux. Nous sommes altruistes. Contrairement à nos adversaires, qui, eux, n'ont que des intérêts ou des bas instincts racistes ou ci ou ça. Mais là, on voit que, non, je m'excuse, là, mais c'est exactement la même chose chez Québec solidaire, hein, que le voile, comme vous l'avez dit, se sont appliqués eux-mêmes une forme de loi 21. Et donc, la morale de cette histoire, c'est que quand on fait la leçon aux autres, eh bien, on évite de se retrouver en situation où on peut se la faire faire.
Ouais.
Et donc, c'est exactement ça. Alors, pour moi, ça, c'est de la grande hypocrisie de Québec solidaire. Ça, c'est une chose très claire là, que ça révèle. Là. Puis une autre chose que ça révèle, c'est l'espèce de délire antiraciste qui habite Québec solidaire. Alors là, il y a toute cette querelle à l'interne avec ce groupe qui s'appelle le collectif antiraciste décolonial. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça.
Oui, CAD, oui.
Et donc, alors là, c'est tout est réduit à la couleur de la peau. Hein? On n'est plus que des gens avec des couleurs de peau différentes, n'est-ce pas? Alors, tu sais, moi, je vois, par exemple, mon dentiste, qui est un monsieur qui s'appelle Nguyen, là, qui parle avec l'accent comme vous et moi, qui est né ici. Mais lui, c'est toujours un Asiatique. Il ne peut jamais devenir Québécois, cet homme-là.
Il est racisé, oui, c'est ça.
Il est racisé, il est enfermé dans son origine asiatique. Il n'a pas le droit de se revendiquer comme Québécois. Autrement dit, on est prisonnier de la race. La culture n'a pas préséance sur la race. ou la couleur de la peau des gens, pour le dire mieux, là, parce que j'aime pas tout à fait le mot race. Mais c'est une régression. C'est du délire complet où on réduit les gens à la couleur de leur peau, mais c'est totalement... Oui.
Et c'est ce que dénonce Mathieu Bock-Côté dans son livre sur la révolution racialiste. C'est exactement
exactement, voilà. Bon.
Ça lui, évidemment, Mathieu étant Mathieu, ça lui prend 350 pages pour nous l'expliquer, mais quand on le résume, c'est en gros, c'est ça. Écoutez, moi, ce que je trouve, Monsieur Bastien, d'extrêmement révélateur dans cette histoire-là, c'est que ça n'est même pas quelqu'un de l'extérieur de Québec solidaire qui dénonce cette situation-là. C'est des guerres intestines, donc c'est quelqu'un, donc cette dame, Cybèle Épi, à Togoul, qui donne une entrevue et qui dit ça pour montrer à quel point donc il y a ces divergences de progressisme à l'intérieur de Québec solidaire. Et ça me fait penser à quelque chose, Monsieur Bastien, puisque vous avez vous-même été candidat pour le PQ, voilà, vous avez essayé d'être candidat à la chefferie, mais bon, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Vos liens avec le PQ sont indéniables. C'est là que je voulais en venir. Quand les journalistes parlent du PQ, la moindre divergence d'opinion, et quelqu'un qui faisait une blague l'autre jour en disant il suffit qu'au PQ on soit pas d'accord sur le choix de salade de choux chez Saint-Hubert, il y en a qui préfèrent la traditionnelle puis il y en a d'autres qui préfèrent la crémeuse, et ça fait la une des journaux. Et pourtant, quand il y a une dissension vraiment claire et nette à Québec solidaire, les médias n'en parlent pas beaucoup. Il y a comme un deux poids deux mesures, vous trouvez pas?
Oui, absolument. Mais en fait, ce qui est... moi, je vais vous dire d'abord, j'aime ni la salade traditionnelle, ni la salade nouvelle.
La crémeuse.
Donc, je pourrais peut-être faire votre titre avec ça. Mais écoutez, effectivement, les journalistes, moi, je pense que Québec solidaire a souvent eu droit à un passe-droit, c'est peut-être pas le bon mot, mais une espèce d'indulgence, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui partagent, ils sont pas des partisans au sens où ils adhèrent pas, ils ont leur carte de membre.
Il y a une complaisance.
Mais c'est ça, une complaisance, parce qu'idéologiquement, ils sont proches de Québec solidaire. Ben là, on va voir au congrès, ils ont un congrès dans à peu près une dizaine de jours, il y a une motion de blâme qui doit être votée contre le fameux collectif anti-raciste décolonial. Et là, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce qui va se passer? Ils sont les dirigeants de Québec solidaire, à force de prêcher, de tomber dans des idéologies extrémistes comme le racisme systémique, eh bien là, ils sont pris avec cette espèce de groupe à l'interne là, qui emmène large. Et ils ont dissous, ils avaient un collectif laïcité.
J'allais vous amener là-dessus, qu'ils ont dissous. Parce qu'ils disaient que, enfin, ils trouvaient que le collectif allait trop loin et que, en fait, ils, à mots couverts ou pas toujours couverts, accusaient certains membres d'être islamophobes, en fait.
Oui, alors, c'est intéressant. Ils ont dissous, donc, ce que je retiens de toute cette histoire du collectif laïcité, c'est qu'ils l'ont dissous. Mais là, d'après moi, ils n'oseront pas dissoudre leur collectif antiraciste décolonial parce qu'il s'appelle antiraciste.
Ben
alors,
oui.
Vous pouvez pas. Alors, si vous savez, même s'il y a plein de gens tout à fait loufoques, même au niveau idéologique, qui ont des idéologies dangereuses dans ce collectif, des extrémistes de gauche, très extrémistes. On parle de la gauche de Québec solidaire, qui est déjà à l'extrême gauche. Donc, la gauche, l'extrême gauche, si vous préférez. Ils oseront, d'après moi, ils oseront pas le faire parce que, évidemment, ils vont se faire accuser de racisme. Alors, ça révèle toute cette à quel point toute cette idée de racisme systémique là, c'est vraiment quelque chose de toxique et que il faut rejeter ça. Que Québec solidaire aurait dû rejeter ça, aurait dû dire ce que dit le Parti québécois, ce que dit la CAQ. Oui, il y a des racistes au Québec, mais il n'y a pas de racisme systémique. Même les libéraux sont hésitants à parler de racisme systémique. Là, c'est pas complètement clair là-dessus, mais ils ont certainement pas été aussi loin que QS dans cette affaire. Mais QS s'est vautré dans cette idéologie toxique de racisme systémique qui repose sur rien, bien là, évidemment, ils sont pris avec ça. Et comme on dit souvent, les révolutions mangent leurs enfants. Alors, vous êtes...
Voilà.
Aujourd'hui, vous êtes le preux combattant du racisme et demain, bien, vous allez être jeté en pâture par des plus radicaux que vous qui vont à leur tour vous accuser d'être raciste.
Et qui vont vous dépasser par la gauche. Monsieur Bastien, je veux absolument, parce qu'il nous reste quelques temps, je veux absolument qu'on prenne le temps de parler de cette réplique que vous avez faite à un texte qui est paru dans le Globe and Mail, où une chroniqueuse faisait un lien assez indécent entre la loi 21 et l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Vous lui avez répondu en anglais, le Globe and Mail n'a pas cru bon de publier votre réplique, donc vous l'avez publié en français. Qu'est-ce qu'elle disait, cette dame-là? Quel genre de parallèle elle faisait entre la loi 21 et l'affaire George Floyd?
Ben, on est sur le domaine encore du racisme systémique, et elle dit, au moins aux États-Unis, des fois, il y a des gens qui sont punis. Alors, donc, Derek Chauvin a été puni de son crime terrible. Et au Québec, par contre, les gens, ben, on n'est pas, y a personne n'est puni, il n'y a pas de justice pour les victimes de la loi 21. En gros, en dressant un parallèle, au fond, entre l'assassinat de George Floyd par Derek Chauvin au Minnesota, aux États-Unis, dans l'affaire qu'on connaît tous, elle dit, voilà, regardez, elle compare ça à la question de la loi 21. Alors, c'est une comparaison totalement outrancière, c'est une comparaison, en fait...
Ça
relève d'un aveuglement, d'une hostilité viscérale au Québec et à tout ce qui fait la différence québécoise, en fait. Et là, donc, pour moi, la chroniqueuse, c'est très clair, elle est déjà clairement contre cette loi 21. Et là, elle va se servir de tous les arguments possibles. Et là, on va prendre des comparaisons comme ça, totalement outrancières. Le meurtre d'un noir aux mains d'un policier, pour dire, regardez, au Québec, eux, ils font des... Il y a des choses terribles qui se passent, et puis personne ne fait rien, ils s'en tirent, et puis... elle a lancé un appel à une croisade, une espèce de croisade, elle n'a pas dit ça comme ça, mais elle a dit, c'est pire que dans les États du sud des États-Unis, comme en Géorgie, il faut lancer un appel, il faut qu'il y ait une mobilisation mondiale contre le Québec, et la loi 21, et etc., etc. Tout ça, évidemment, au nom du multiculturalisme canadien, cette idéologie d'État qui fait en sorte que c'est absolument impossible de défendre la liberté de conscience, que la laïcité est criminalisée, et que, évidemment, chaque fois que le Québec veut faire valoir son identité distincte, bien, on se fait lancer des pierres absolument régulièrement. Quand vous prenez le temps de lire les médias anglophones, là,
c'est terrible.
Ahurissant.
Et ce que je trouve très intéressant, Monsieur Bastien, c'est que vous avez pris la peine.
Ces gens-là sont tolérants en passant, hein.
Mais ils donnent des leçons de tolérance, oui, c'est ça. Mais quand ça touche le Québec, tout d'un coup, la tolérance, la définition de la tolérance change complètement. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est que le Globe and Mail n'ait pas publié votre réplique, alors que normalement, ben hier, on célébrait quand même la Journée internationale de la liberté de presse. Il me semble que la liberté de presse, c'est que quand quelqu'un publie une opinion, que les gens qui sont de l'opinion contraire aient un droit de réplique, ça me paraît quand même la base en journalisme. Donc, c'est quand même assez singulier que le Globe and Mail n'ait pas publié votre texte. Donc, ben nous, on peut le lire, vous l'avez publié dans les pages du Journal de Montréal, Journal de Québec, puis on peut le lire aussi sur votre...
Et il y a la publication initiale du Globe and Mail qui était
également tout à fait
disponible.
Voilà. Donc comme ça, les gens pourront se faire leur tête, voir s'ils sont équipe Bastien ou équipe Globe and Mail. Frédéric Bastien, donc j'encourage tout le monde à continuer à vous suivre sur Facebook. Vous êtes professeur historien et ex-candidat donc à la chefferie du PQ. Merci, Monsieur Bastien.
Merci, Madame Durocher, au plaisir.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
vous savez que quand on revient de l'étranger, qu'on passe les douanes, il faut évidemment se présenter avec des preuves de tests négatifs, puis ensuite faire des tests dans les jours qui suivent notre arrivée. Mais il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes de rien de moins qu'un cauchemar avec l'organisation Switch Health qui gère l'administration de ces tests-là. Et c'est le cas de mon prochain invité, il s'appelle Guy Larivière, et sur Facebook, au cours des derniers jours, il a témoigné de ce qu'il appelle lui aussi un cauchemar. Il est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Larivière.
Bonjour, Madame Durocher, vous allez bien?
Ben moi, je vais très bien. Vous, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Racontez-nous, vous arriviez d'où à l'étranger et pourquoi vous vivez un cauchemar au cours des derniers jours, des dernières semaines?
Mais voici, j'arrive comme les snowbirds canadiens, j'arrivais de la Floride, de Fort Lauderdale, où j'habite l'hiver. Et puis, mm-hmm. J'avais passé mes deux vaccins de Pfizer le 19 janvier et le 9 février 2021. Ensuite, j'ai passé, parce que quand on veut partir des États-Unis vers le Canada, on sait qu'on n'a que 72 heures avant notre envolée pour obtenir, par exemple, un test négatif. Donc, pour être certain d'en avoir un qui arrivait à temps, ben, on a dû, ma femme et moi, en faire trois. Donc, je pourrais vous nommer les compagnies, mais c'était très, très rapide. Eux, j'en ai eu deux qui sont arrivés assez à temps, c'est-à-dire avant 72 heures. C'est-à-dire, j'en ai fait un comme le 15 avril et moi, je partais le 18.
Oui.
Et je l'ai reçu le lendemain le 16. Et puis, à ce moment-là, j'en ai refait un autre le 15 et aussi le 16, pour être certain. Finalement, j'en avais deux qui sont arrivés à temps avant le 72 heures. Et puis, à partir de là, bon, on a monté dans l'appareil de Air Canada pour se rendre à Dorval ou Pierre-Éliott Trudeau. Et finalement, on a fait les procédures habituelles de douane et puis de sécurité pour être transféré vers un petit corridor qui nous menait au laboratoire Biron, un petit kiosque à ce moment-là. On a fait notre test le 18 avril à 17h30. Le résultat, on a reçu dans la nuit, du 18 au 19, à 3 heures du matin de Biron, donc moins d'une journée. Et j'ai demandé à l'hôtel si, excusez-moi, je pouvais, canceller le 3 jours de quarantaine préalable à le retour à la maison. Et puis là, ça s'est fait. Et finalement, je veux dire, comme moi, j'étais avant le départ, avant le 23, parce que la règle était de 10 jours pour faire le test. Donc, j'ai fait le test le 10e jour, qui donnait à ce moment-là le 27 avril. Le 27 avril, j'ai été en attente à peu près seulement 2 heures. C'était pas trop mal, parce que, je veux dire, on a commencé, ma conjointe et moi, à 6h du matin, à attendre que Switch Health nous envoie une jeune fille, une jeune infirmière, pour, par exemple, prendre un rendez-vous en FaceTime ou en Internet. Et puis, finalement, ben là, je veux dire, on a pu obtenir son visage et puis qu'elle nous indique comment faire le test qu'on savait déjà faire depuis quelques fois. Parce que
ça faisait plusieurs fois que vous le faisiez.
En effet. Finalement, on fait le test devant elle et puis elle me demande est-ce que vous voulez que je vous transfère à Perlator. J'ai dit non, c'est pas nécessaire. Je suis capable de faire mes appels moi-même. Et j'ai fait l'appel pour ma conjointe et moi. On a fait tous les emballages. On a mis ça à l'extérieur de la porte dès que le camion de Perlator s'est présenté.
Et là juste pour bien comprendre, M. Larivière, à ce moment-là, tout ce que vous nous décrivez, là, vous êtes chez vous en train de faire votre quarantaine obligatoire. Là, vous n'êtes plus à l'hôtel. Là.
Oui. Je suis pas à l'hôtel. L'hôtel, ça s'est terminé le 19.
D'accord, parfait. Vous êtes arrivé le 18.
Le 18 et puis le 19, mais je pense peut-être le 20 au matin. Là. Mais,
d'accord.
Vous étiez chez vous. Une nuit à l'hôtel.
D'accord, parfait.
Là, je suis
parfait.
Chez moi. Je suis encore chez moi. Je vis ma 17e journée où j'approche ma 18e journée de confinement sans avoir de résultat. Le résultat a été fait le 27 avril. Comme je vous disais, pour Internet. Et puis finalement, là, je me suis mis à écrire, par exemple, le 1er mai, parce que là, je me suis dit, bon, de 4 jours ou 5 jours qui nous promettent de faire le test, on ne le reçoit pas tout de suite. Hier, c'était le 16e jour que ma conjointe a reçu, suite à la réquisition qu'on reçoit de Switchell. Mm-hmm. Elle a reçu son résultat hier matin. Finalement, moi, du tout. Et peut-être parce que je me suis plaint ou peut-être parce que j'ai trouvé que je devenais plus impatient. Vous savez, le test passe de Prolator, dans le fond, de Switch Health, qui est à Mississauga, et comme transféré à ATS Ottawa, sur la rue Humber Place. Donc, c'est un autre délai. Et puis, finalement, de là, je pense qu'il part vers un autre service.
Ben, voyons donc.
Là, je voyais le docteur Joseph Frabgapan, qui est de l'air intermédiaire, qui a pratiqué dans différentes régions du pays. Et puis là, je voyais son laboratoire. Ça pouvait être Rio Test, à Nepean, en Ontario. Ou encore, je vois peut-être, par exemple, qui pourrait être à Ottawa ou à Toronto.
Mais monsieur Larivière, vous habitez où, vous? Vous habitez où,
moi,
vous, monsieur Larivière?
À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, au nord de Montréal.
D'accord. Donc, juste pour bien comprendre, donc vous vous plaignez de deux choses. Premièrement, le fait que vous n'ayez pas encore eu les résultats de votre test que vous devez faire 10 jours après votre arrivée. Donc, ce qui fait que vous êtes obligé de maintenir cette quarantaine, cet isolement.
Exactement.
Et le fait que, en fait, c'est qu'il n'y a qu'une seule compagnie qui administre ces tests et que, parce que c'est obligé de transiter par l'Ontario, ça occasionne des délais qui sont inacceptables. Donc, aujourd'hui, là, on se parle, on est le 4 mai, vous n'avez toujours pas réussi à avoir les résultats de votre test qui a été fait le 27 avril.
Vous avez complètement raison.
Ben, voyons donc, ça n'a aucun sens. 27 avril au 4 mai.
Le problème, c'est qu'en plus, quand on vient pour communiquer avec eux, bon, il y a plusieurs agents qui interviennent, ou encore, par exemple, c'est des réponses automatiques qui nous disent, bon, bien oui, on a reçu votre test. On m'a même dit qu'on avait reçu mon test le 2 mai, alors que d'autres préposés aux représentants de Switch Health, dont Johanna, Alicia, Melody Ringer et compagnie, me mentionnent, non, on a reçu votre test le 29 avril. Fait que donc, je me dis,
voyons,
je sais pas.
Il y a une confusion. Il y a une confusion. Mais ce que je comprends, monsieur Larivière, si vous me permettez, c'est que d'abord, je dois vous faire un compliment, c'est-à-dire que vous avez documenté tout ça. Là, quand vous parlez à quelqu'un à Switch Health, vous notez son nom, vous notez la date, vous notez l'heure.
Oui.
Donc, vous avez fait beaucoup de démarches. Comment on explique ça à Switch Health, le fait qu'on ait donné le résultat à votre femme, qui est négatif, je pense, mais que vous n'ayez pas le résultat alors que vous avez envoyé les deux tests en même temps?
Oui, on m'explique par exemple que ils ont débordé, que le docteur Frabgapan est débordé aussi. Et puis j'ai reçu une réponse de Monsieur Claude Loutala, là, qui je pense travaille même au ministère de la sécurité ou quelque chose comme ça, ou au Parlement, je pense. Il est agent de sécurité au Parlement. Et il m'a répondu d'une façon très courtoise. Il était très gentil, mais je veux dire, malgré moi, j'ai fait des courriels, je les ai fait en anglais, je les ai fait en français, et même à un moment donné avec une dame, disons Alicia de Switch Health, parce qu'on a deux numéros. On a des numéros pour contact Switch Health et on a aussi result at switchhealth.com.ca. Et puis on a deux numéros de téléphone. Et puis là, comme on essaie de les rejoindre, ben là, on réussit à rejoindre quelqu'un qui nous dit « Ah oui, c'est en traitement » ou encore « Ça va être en traitement ». Mais vous savez, on a beaucoup, beaucoup de demandes en même temps. Et puis, en ayant ces mêmes demandes-là en même temps, ben on est débordé. Et puis, c'est certain que ça ne prendra pas plus que 5 jours, là, maintenant.
Ça ressemble à ça. Pardon? On vous a dit « Ça ne prendra pas plus que 5 jours ». Mais il faut bien comprendre, monsieur Larivière, la situation dans laquelle vous êtes. C'est que vous êtes un bon citoyen. Vous voulez faire les choses selon les règles, c'est ce que je comprends. Vous avez jusqu'ici suivi les règles vraiment à la lettre et vous vous sentez dans l'obligation à partir du moment où vous n'avez pas reçu les résultats de votre test effectué au 10e jour après votre retour, vous vous maintenez en isolement ou en quarantaine, mais ça peut pas, à un moment donné, vous pouvez pas passer 3 mois en quarantaine juste parce que du côté de Switch Health, ils sont pas capables de vous donner les résultats de votre test, là.
Je pense que vous résumez extrêmement bien ma situation, parce que c'est exactement ce que je sens. Et ce que je veux vous amener aussi, Mme Durocher, c'est que quand je regarde, par exemple, je vais sur, comme vous et moi, là, je sais qu'on se communique par Facebook parfois.
Oui.
Je regardais hier, je suis allé simplement sur le site de Switch Health, dans, par exemple sur Facebook. D'accord? Et à ce moment-là, j'ai retracé un nombre de plaintes incroyables.
Ah oui.
Des gens qui se disent ça n'a pas de sens. C'est pas juste pour moi, là, pour des gens qui ont vécu la même situation. Le mari reçoit ou la femme ne reçoit pas, ainsi de suite. Il y a des gens qui disent j'étais en ligne 8 heures de temps ou même 12 heures. On m'a raccroché. Comme nous, quand on a passé, par exemple, notre test de 27, on était, je pense, le 294e client, patient, à attendre la réponse de l'infirmière pour qu'elle nous visionne puis nous montre comment faire avec le petit, Q-tip long là, qu'on casse. Et puis finalement, je vois des gens, par exemple, regardez des gens, 1488 personnes qui attendaient devant lui. Finalement, au bout de quelques heures, décrochement. On décroche.
Non.
Il rappelle.
C'est incroyable.
De 1400, il revient à 1340e. Vous savez, et je peux vous donner des noms si vous voulez, mais c'est terrible. Et puis ensuite.
Bon, monsieur Larivière, oui, il nous reste seulement quelques secondes. Je vais vous demander quelque chose. Non, vous excusez pas, au contraire, c'est passionnant votre témoignage. Quand vous allez avoir le résultat, pouvez-vous communiquer avec moi par Facebook parce que je veux pouvoir tenir les auditeurs au courant, parce que ce sont vraiment des délais qui sont absolument inacceptable, surtout que ça décourage des bons citoyens qui veulent suivre les règles. Ça encourage tout simplement les gens à contrevenir aux règles. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler, de nous raconter votre histoire. Bon courage, puis on est suspendu à vos lèvres, on a très hâte de savoir combien de temps ça vous aura pris. Je vous rappelle je rappelle à tout le monde quand même que ce test a été effectué le 27 avril. On est rendu le 4 mai. Vous avez même pas encore les résultats. C'est complètement ridicule. Merci, monsieur Larivière, d'avoir témoigné aujourd'hui.
C'est un plaisir et merci beaucoup, madame Durocher. Puis bon succès dans votre émission.
Merci, c'est gentil. Guy Larivière, donc, simple citoyen, était en Floride comme il fait chaque année. Il a fait les choses comme il fallait, il a fait ses tests avant de partir, il a eu ses 2 vaccins aux États-Unis, il arrive ici, il veut faire son test au bout de 10 jours pour montrer au gouvernement qu'il n'est pas positif à la COVID, puis il se fait niaiser par l'administration, il se fait niaiser par la bureaucratie, c'est complètement inacceptable. Merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en onde de la réalisation. Merci aussi à William Boivin à la recherche. On se retrouve demain.
Cube Radio.